Radio Campus 88.3.
Je vous laisse carte blanche quant aux moyens à employer. Ils seront bons. La séduction, le marchandage, le chantage, le vol, la violence, le crime, mais je ne veux pas le savoir.
Est-ce que t'as ton oreille tendue? C'est le 88.3 FM.
C'est ça la classe, mon petit.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
C'est un bâton rompu qui redémarre, qui redémarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, à bâton rompu magazine hebdomadaire d'actualité. C'est la reprise donc, avec quelques semaines de repos. Bienvenue avec Victor, comme depuis 3 ans. Est-ce que Victor m'entend? Victor? Bonsoir. Alors, attends. J'ai un petit souci avec ce micro. Alors, est-ce que Victor m'entend aussi?
Bonsoir.
Voilà, oui.
Bonsoir, oui, là vous m'entendez. Super, bah bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur les ondes d'Abaton Pub, parce que vous m'avez manqué pendant ces vacances.
Bien reposé donc.
Ah oui, très bien, j'ai passé 2 semaines en Bretagne, à côté de Concarneau, la plage, le soleil, tout ça quoi.
Parfait, la Bretagne, beau territoire, mm-hmm. J'y étais également. Si vous êtes auditrice ou auditeur fidèle, vous savez que nous démarrons l'émission avec Mourad Guichard, journaliste indépendant. Une chronique sur un thème d'actualité locale ou une critique de pratiques journalistiques. Ça va être le cas ce soir. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous et ravi également, comme Victor, de vous retrouver.
Oui, présent dans les studios et c'est bien. On va parler du plus grand quotidien régional français en termes de tirage, je précise, Ouest France, en manque de déontologie. C'était au début du mois d'août, hein, c'est ça
C'est ça, tout à fait. Ouais, c'était fin juillet, début août.
Bon, ben on en parlera dans quelques minutes. Présent en studio et avec nous ce soir également, Daniel Begdad et Steven Mirédin de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir à vous deux.
Salut SN.
Comment ça va?
Bonsoir.
Vous êtes la rédac pop, hein, la rédac de Radio Campus. Orléans, vous avez réalisé un reportage qu'on trouve sur la page de la rédac pop la semaine dernière sur le passage à Orléans du convoi de l'eau. Un convoi de manifestants et manifestantes à vélo et en tracteur mobilisés contre les méga-bassines. Hein. Bon, parfait. Nous entendrons dans l'émission Julien Le Guay, porte-parole de Bassines Non Merci. Notre premier invité de la saison, Emmanuel Duplessis. Bonsoir Emmanuel Duplessis.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors,
Excusez-moi, est-ce que vous avez une sœur qui s'appelle Latifa ou pas?
Non, pas du tout.
Ah, ok.
Mais on s'est rencontrés sur Facebook il y a quelques semaines et on a constaté qu'on n'était pas de la même famille.
C'est une psychologue qui me suit dans le cadre de mon parcours en emploi santé à Pôle emploi.
Ah, très bien.
Et j'ai pas de cousin rugbyman.
Non plus, voilà. Emmanuel Dupessy, élu municipal à Orléans, élu municipal d'opposition.
En effet.
Voilà. Et au centre, j'allais dire au centre d'une polémique, Victor.
J'irai pas jusque là, plutôt d'un coup de sang.
Oui, d'un coup de sang. En fait, en gros, c'est un vrai sujet, on va en parler. Les fêtes de Loire, c'est dans une semaine à peu près.
En effet.
La ville d'Orléans, comme l'année dernière, a décidé de pomper l'eau de la Loire pour le bassin qui est à sec pour pouvoir faire circuler les bateaux. Et vous vous interrogez sur quel danger possible de ça quand on remettra l'eau dans la Loire, c'est ça ?
C'est ça, il y avait un certain nombre de réflexions. À la fois, en effet, on se questionne, enfin, on sait que la ressource en eau est sous pression. Hein, le département du Loiret sous arrêté sécheresse, l'accès, le partage de l'eau est réglementé sur le département, et par ailleurs on a une problématique mondiale de réchauffement climatique, de raréfaction d'accès de l'eau, le convoi de l'eau de la semaine dernière en témoigne. Enfin, c'est un sujet qui traverse tous les territoires et particulièrement le nôtre, parce que le nôtre est en sécheresse, et c'est vrai que voir pour la troisième fois maintenant la ville être autorisée à pomper dans la Loire pour le Festival de Loire et remplir le canal et permettre la navigabilité des bateaux, c'est un choix qui questionne. D'une part, pourquoi cette autorisation et pas à d'autres, déjà le motif de fond. Derrière, il y a aussi les conséquences, en effet, sur les cycles de l'eau. Alors moi, je ne suis pas un grand expert. Malheureusement, on n'a pas de données sur
ça, problématique. Vous n'en avez pas.
On n'en a pas. Il n'y a pas d'études sur les conséquences possibles de ce pompage sur le reste de cycle de l'eau dans une Loire qui a déjà des difficultés à se remplir et des nappes phréatiques qui sont aussi atteintes. Et finalement, derrière, c'est la question démocratique. C'est pour quelle raison, pour quelle cause, à partir de quel bilan, coût, avantage, intérêt pour les populations, désavantage pour l'environnement, on opère ce choix de pouvoir pomper dans la Loire, de privilégier le festival à la santé de la Loire. Et cette question-là, elle n'est pas du tout abordée, et elle n'est pas abordée en tout cas de manière transparente. Et c'est ça qu'on déplore.
Et votre interrogation est passée au niveau national. Vous êtes passé au journal de France Télévisions.
En effet.
Ça a bien agacé le maire d'Orléans, on va l'écouter dans l'émission, qui, lors de la conférence de presse pour présenter le Festival de Loire, vous attaque personnellement. Et on va...
Je l'ai interprété comme ça et je crois que c'est difficilement interprétable d'une autre manière.
Ben, absolument, on écoutera ça et on parlera évidemment avec vous, notamment du convoi de l'eau passé ici à Orléans, et puis de la politique plus globalement, de la politique environnementale et la politique de l'eau dans la métropole d'Orléans. À bâton rompu, c'est le retour. Oh, ça fait bien plaisir de vous retrouver.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Mourad, régulièrement ici, tu fais la critique de confrères qui manquent de règles de déontologie du journalisme. Cet été, en vacances, tu étais en Normandie. Passe d'armes avec Ouest France, je disais. Tu es on va remettre en perspective. Tu es en vacances en Normandie. Tu es interpellé par une publication d'une association écologique. Qu'est-ce qui se passe derrière ?
Il se passe que... Alors, les algues, alors quand on va en Normandie, qu'on connaît la Normandie comme je la connais plutôt pas mal depuis quelques décennies maintenant, on est habitué évidemment aux algues, on est habitué aux marées, on est habitué à ce qu'il y ait un travail qui se fait autour de la biodiversité. Il se trouve que les algues que vous voyez sur les plages, qu'on appelle la laisse de mer, en fait, est un nid de biodiversité. C'est-à-dire que c'est là que des mouches viennent pondre, que des oiseaux viennent se nourrir justement de cette ponte, que tout un travail, tout un écosystème se fait et qui est régulé par la mer depuis toujours, notamment par le cycle des marées, notamment des grandes marées qui ont eu lieu, notamment à la mi-août. Et un jour, je débarque sur la plage et j'observe que des tracteurs sont passés et ont complètement ratissé et poussé vers le large ces fameuses algues, donc les mêlant avec à la fois les mégots de cigarettes, les objets en plastique, enfin bref, et le sable qui détruit évidemment ce nid de biodiversité. Donc cette association, Langroan, qui milite justement pour qu'on maintienne ces laisses de mer, avait communiqué effectivement via Facebook pour demander au maire de stopper ces pratiques-là, ces pratiques qui sont d'un autre âge, faut être très clair. Et donc, Et donc, j'observe ça, j'en fais un sujet pour l'humanité, sujet qui a un certain écho.
Oui, c'est vrai.
Et je vois arriver, donc ça on devait être fin juillet, je vois arriver début août un papier de Ouest France, ex nihilo, qui se met à traiter ce sujet, alors que le communiqué de l'association remontait à fin juin. Donc s'ils avaient été au courant, ils auraient évidemment écrit dessus bien avant. Et donc, ils parlent, comme l'aime bien faire PQR Mon Amour, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale qu'on aime, ouais, particulièrement ici. Donc ils font un papier où ils laissent uniquement la parole au maire pour dire que ces algues, c'est sale, c'est dangereux, ça déplaît aux commerçants et ça déplaît aux touristes qui, d'après eux, ce serait un repoussoir à touristes et donc pour l'économie locale et ainsi de suite. Et donc je fais le tour évidemment.
Et l'article de Ouest France, il faut le dire, sort 3 jours après le tien.
Oui.
Et dans cet article, donc il ne cite même pas ton article.
Alors il ne cite pas l'Humanité.
Et surtout, il n'interroge pas l'association.
Absolument, l'association d'écologistes qui est à l'origine de ça et qui est vraiment, enfin je les ai rencontrés, ils sont nombreux, mais en plus ils sont extrêmement compétents, ils connaissent très bien leur dossier, ce qui ne me semble pas être le cas de certains élus locaux là-bas. Donc on parle de Langrune-sur-Mer, hein, petite station balnéaire qui se trouve pas loin de Ouistreham. Et donc, alors que je précise dans l'article, parce que j'ai interrogé évidemment des commerçants, qu'aucun commerçant que j'ai rencontré n'était favorable à ce qu'on transforme en piscine les plages de Normandie, hein, qui sont connues pour être dans cet état depuis toujours et qui ne posent visiblement aucun problème puisque les touristes sont toujours là. Et donc, je contacte, évidemment, Ouest France en leur demandant « mais qu'est Zaco ?» Et la réponse qui m'est faite est que, un, l'association ne les a pas sollicités. Sauf que c'est moi non plus, elle m'a pas sollicité puisqu'elle ne me connaît pas. Donc évidemment, il faut aller vers l'association et prendre leur point de vue.
Ah oui, non, mais amis auditeurs, hein, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du journalisme, qui nous écoutent, c'est ça qu'il faut faire, quoi.
Le fait pas comme oui, France, d'autant qu'ils avaient fait l'association à peu près un an et qu'ils avaient fait un papier pour annoncer
la
naissance.
En plus, ils ont,
donc ils peuvent pas ignorer. Ouais. Et deuxièmement, la rédactrice en chef de Ouest France Normandie me confirme par écrit, je crois qu'elle ne réalise pas tout à fait ce qu'elle écrit à ce moment-là, mais elle me confirme que c'est le maire qui les a sollicités. Donc, l'article dans l'Humanité paraît, il déplaît à la mairie. Et qu'est-ce que fait la mairie ? Elle appelle le service après-vente, le SAV Ouest France. Et Ouest France fait le job, puisqu'elle prend fait et cause pour la mairie et pour les pauvres petits maires qui n'ont pas d'autre solution que de bousiller la plage. Et donc là, on a un effet classique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça échappe à PQR Mon Amour, à partir du moment où ils n'ont pas vu arriver un sujet, comme ça arrive très souvent, ils vont prendre le contre-pied du sujet par un esprit, je pense, je vais faire de la psychologie de bas étage, mais par un esprit de revanche sur le fait d'avoir loupé le papier, donc, et puis de plaire peut-être aux édiles locaux, hein, ça peut arriver parfois dans la presse quotidienne régionale. Donc voilà, il y a eu tout ce phénomène-là, c'est une espèce de concentré, de condensé, et je termine juste là-dessus, c'est nos chers confrères d'Arrêt sur Image, en l'occurrence Loris Guémard, qui a fait un excellent sujet d'un quart d'heure, hein, sur son Twitch, qu'on retrouve sur le site d'Arrêt sur Image, où il arrive à la conclusion qu'effectivement le sujet a été volé et qu'effectivement il y a une façon de travailler qui est complètement en dehors des clous et qui viole toutes les règles déontologiques et éthiques de base.
Je vais vous faire écouter un extrait de cette émission qui s'appelle Proxy, hein, sur Arrêt sur Image.
L'excellente émission Proxy.
Excellentissime émission. Loris Guémard, donc, que tu as contacté et qui essaye, qui fait son travail de journalisme. Il appelle les uns et les autres.
L'association n'est pas citée par Ouest France. Le papier de l'article de l'Humanité n'est pas cité par Ouest France. Sachant que on est quand même 3 jours après. Enfin, en gros, Ouest France fait comme si les deux articles précédents n'existaient pas. Et pour autant, les questions qui sont posées semblent quand même très très directement liées à la polémique qui est en train d'avoir lieu et qui a été rapporté par l'Humanité. C'est un article qui n'est pas signé, donc qui est probablement réalisé par un correspondant ou une correspondante locale, c'est-à-dire des gens qui font un travail journalistique, mais qui n'est pas rémunéré, et qui, le plus souvent, ne signe pas. Donc voilà, c'est très compliqué d'appeler l'auteur ou l'autrice de cet article, ce que j'ai pas pu le faire. J'ai voulu appeler le bureau local de Ouest France pour en savoir un peu plus, mais alors le seul auteur des articles actuellement au bureau local de Ouest France, en tout cas les auteurs des articles sur Langrune, c'est un stagiaire. Il n'est pas rare l'été que des stagiaires tiennent tout seuls des bureaux locaux complets, ou que ce soit des CDD d'un mois ou deux mois. Donc, il m'a paru compliqué d'aller l'appeler pour ce genre de questions et puis l'exposer sur une émission d'Arrêt sur Image, alors que probablement il ou elle est absolument pour rien et a pas vraiment. Enfin voilà, le correspondant a fait son papier, il s'est peut-être pas posé de questions. Et en fait, bah, là où ça devient quand même gênant, c'est que bah là il y a un récit médiatique qui est quand même le récit médiatique le plus puissant localement, on peut supposer, puisque c'est West France, donc c'est le quotidien local en fait, hein, de la commune. Alors Lux, en gros, on a un journal qui vient après un autre journal en apportant un récit médiatique complètement inverse et qui ne cite ni l'association locale ni le média à l'origine de l'information. Le journaliste de l'Humanité, qui a fait l'article pour l'Humanité, Mourad Guichard, qui a écrit, qui a interpellé le responsable des réseaux sociaux de West France, qui lui dit « Afin de rejoindre la rédaction, je vous invite à utiliser le formulaire de contact qui se trouve sur le site et dont l'adresse est rappelée dans le tweet épinglé de notre compte. Bonne soirée à vous. » Ce qui n'est pas la réponse la plus confraternelle qu'on puisse imaginer dans ce cadre-là.
Évidemment, on le conçoit assez. T'as reçu ça comme ça. Ils t'ont envoyé un truc en disant, ils t'ont envoyé balader, voilà, vas-y, prends ton ticket comme...
Aimablement, le responsable effectivement du numérique sur Twitter, donc c'est tout à fait visible et c'est tout à fait public, ainsi que donc la directrice de la rédaction du coin de Normandie où j'étais, qui dit qu'il n'y a aucun lien dans son fameux mail, elle me dit qu'il n'y a aucun lien direct entre les deux papiers. Alors que quand on connaît le fonctionnement de la presse, notamment en été, on sait très bien qu'évidemment, il y a eu une forte inspiration, on va dire ça comme ça, de mon papier et qui n'a pas été cité. Mais c'est, comme je le disais, ce n'est pas la première fois. C'est assez récurrent, y compris alors, notamment chez West France, mais également ici. Et ça soulève le problème qu'on a déjà soulevé ici à plusieurs reprises, donc je n'y reviendrai pas. Mais ça, c'est la question de la critique média. C'est-à-dire que Arrêt sur Image est un site de critique média, qui est une référence française. Moi, je pratique énormément, que ce soit dans l'Humain ou dans le Canard, la critique média. Et à chaque fois, là, j'ai par exemple un tweet sous les yeux. J'avais fait remarquer qu'il y avait un petit problème de couverture d'un événement local, en l'occurrence le Festival de Loire. C'était au mois de mai dernier. Disons que PQR Mon Amour s'était un peu emballé et avait fait la com directe du Festival de Loire avec un entrain qui m'a semblé un petit peu gênant. Je rappelais simplement dans un tweet que Tar Ben Chaban, ancien conseiller municipal, avait dit « Mais pourquoi voter des budgets en conseil municipal de publicité pour le marché de Noël, je crois ?» alors que, de toute façon, le journal local va faire la pub gratuitement, donc ça ne sert à rien. Et là, j'ai comme réponse « Tu ne sais décidément plus quoi inventer pour te soulager de ton petit venin narquois, essayer tant bien que mal d'exister. Bon, » j'attends pas après cette personne pour exister. Simplement, ça montre que c'est un sujet extrêmement sensible et qu'on ne peut pas toucher un cheveu, ne serait-ce qu'un cheveu, et rappeler quelques règles sans être traité de chevalier blanc, de donneur de leçons et ainsi de suite. Et c'est très regrettable parce que, notamment dans des endroits, effectivement, tu citais tout à l'heure que Ouest France était l'un des plus gros, voire le plus gros quotidien régional de France. Dans certains endroits, ils ont un monopole total, on le voit bien à Orléans, ils ont un monopole absolu et ça oblige à respecter des règles qui ne le sont pas toujours, voire pas souvent.
Nous avons au téléphone un auditeur fidèle que l'on remercie de nous écouter si fidèlement. Fabien, bonsoir. Fabien. Allô, Fabien ?
Allô ?
Oui, allô, est-ce que tu nous écoutes ? Tu nous entends ?
Je vous entends de très 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 loin.
De très 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 loin, vraiment ? Alors, comment on peut faire ça ? Par contre, toi, on t'entend bien ? Alors, je vais essayer de me rapprocher du micro. Je disais que je t'ai contacté parce qu'on parle de la PQR, hein. PQR Mon Amour, que tu suis également. Il me raccroche au nez. Alors, je recompose le numéro, on le fait en direct. Hein. Alors, Fabien.
Épelle les numéros.
Oui, allô, Fabien. Allô, toujours pas. Tu nous entends ou pas? Allô. Allô.
Je vous entends de très très loin, comme si le téléphone était très loin de vous.
Ah, ça c'est pas normal. Bon, bref, est-ce que tu entends ma question ? Je vais essayer de parler tout doucement. Je voulais ton point de vue sur la presse quotidienne régionale. On la critique dans cette émission. Souvent, tu nous as dit ton accord avec ce que dit Mourad. Je voulais savoir si tu as suivi cette polémique avec Ouest France. Non, il ne m'entend pas. Bon, bah écoutez, on va...
Alors, le temps que ça revienne, peut-être, la raison pour laquelle on voulait contacter Fabien, c'est parce que, effectivement, sur les réseaux sociaux, il est très attentif.
Oui, bien sûr.
Mourad, je t'entends mieux là. Je t'entends.
Ah, alors si tu m'entends normalement, peut-être que Hassan est audible de nouveau.
Peut-être. Et moi, tu m'entends moins, peut-être. Ouais, bah, il m'entend moins, vas-y.
Non, j'entends Hassan. Je n'entends pas Hassan.
Alors, c'est pas grave. Je vais faire le relais. Hassan, te posait la question de savoir. Enfin, d'abord, préciser que tu es critique, notamment sur les réseaux sociaux. On te voit assez régulièrement critiquer certaines démarches, on va dire, journalistiques locales. On s'était appuyé sur celle de, qui m'a confronté à Ouest France, là, sur la question des algues, de la laisse de mer, là, du côté de Langrune. Est-ce que, pour toi, c'est quelque chose de symptomatique? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Notamment les questions de polémiques, alors que très souvent c'est pas des polémiques, mais il y a besoin de prendre position. Est-ce que tu estimes qu'il y a un problème, pour employer un terme un peu à la mode, un problème systémique dans la presse quotidienne régionale?
Alors systémique, je pourrais pas dire, parce que j'ai pas le recul que vous pouvez avoir, que tu peux avoir en tant que journaliste. Par contre, moi, de ce que en tant que simple citoyen et lecteur de ces médias observe, oui il y a un problème. Là, tu parlais des algues de Langrune. Moi, je vais rappeler aux auditeurs, et puis je vais vous rappeler l'épisode des tilleuls de Saint-Marceau.
Oui.
Ça va certainement faire sourire. En fait, comment la municipalité décide de refaire la rue,
la place.
De refaire la rue Saint-Marceau et la place Domrémy, donc sise juste en face de l'église Saint-Marceau, avec son monument aux morts et ses tilleuls centenaires, enfin même plus que centenaires. Et le projet s'est fait un peu en catimini, puisque là où l'équipe municipale précédente, à savoir d'Olivier Carré, quand elle faisait une opération comme ça d'urbanisme, elle prévenait les gens qui habitaient, on va dire, trois rues de chaque côté de la rue concernée, puisque quand on fait des travaux sur une rue, bah forcément, ça a un impact sur tout le quartier. Là, en fait, la nouvelle municipalité ne consulte et ne prévient que les riverains de ladite rue. Donc forcément, il n'y a qu'un nombre restreint de personnes qui sont concernées. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'il était prévu, comme nous avons un élu à la Ville Jardin, n'est-ce pas, un vrai faux meilleur ouvrier de France, pour rappeler ce titre honorifique, avait décidé, comme sur la place du musée, j'allais dire Desnoyers, mais je me souviens plus si c'est ce nom-là, la place où il y a le musée.
Oui, c'est Desnoyers, l'hôtel Cabu, c'est ça.
Voilà, où là, il avait décidé d'arracher les poiriers parce que les enfants volaient des poires. Voilà, bon, c'est vrai que ça cause du tort à beaucoup de monde. Là, il avait décidé d'abattre tous les tilleuls. Donc, dans une période de réchauffement climatique où les experts scientifiques disent que, justement, il faut sauvegarder les arbres, il faut planter plus d'arbres, parce que qui dit arbre dit baisse de la température. Là, non, on fait table rase et on enlève tout et on minéralise tout. Et donc il s'est passé qu'un comité, un collectif, au sens très large, même politiquement parlant, puisqu'on allait de la droite, les Républicains, jusqu'à la gauche, qualifiée parfois d'extrême en ce qui me concerne, de riverains, même d'habitants du quartier, on dit, non, c'est pas possible, on va pas, ils ont pas le droit, c'est un symbole du quartier, ces tilleuls, ils sont magnifiques, voilà, on peut pas... Oui, mais ils sont malades, on avait décidé qu'ils étaient malades. Voilà, donc qui, quoi, comment, voilà, on avait décidé, ils sont malades, donc comme ça, ça justifie tout, faut les abattre, c'est un danger pour la population, patati patata. Quiconque se promène encore... aujourd'hui, place Domrémy observera que ces tilleuls sont magnifiques et ne représentent aucun danger pour personne.
Alors, Fabien, pour pas faire trop long, je suis désolé parce qu'on a un problème d'horaire.
Je m'en aperçois.
Juste de venir à la question qui nous concerne, s'il te plaît.
J'y viens. tant que le comment tant que l'action a été menée par par le collectif citoyen, la République du Centre, pour pas la nommer, notre chère République du Centre, qualifiait les l'action des riverains de polémique. C'est-à-dire que c'est polémique. On fait une polémique. Voilà, on polémique. Voilà. Un peu comme ce qu'ils avaient fait avec les opposants au pont de Jargeau. C'était polémique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il y a eu une première rencontre avec Serge Grouard sur un événement qui a été assez houleuse, assez musclé, on va dire. Et suite à ça, des courriers ont été envoyés, il y a eu un échange avec certains membres du collectif, dont volontairement je me suis effacé, dont je ne faisais pas partie. Donc, et donc là, il y a eu des rencontres en mairie. Les arguments ont été posés. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un pépiniériste hein, dans le collectif. Et donc, Serge Grouard a entendu les arguments et a entendu que le projet d'abattage tel qu'il était prêt n'était pas justifiable, n'était pas adéquat, on va dire. Et donc, à partir de ce moment-là, du moment où c'était il y a peu ou prou un an, hein, si je me souviens bien, il faut reprendre les dates des articles, on va s'apercevoir qu'en fait, au niveau du petit titre, du petit qualificatif qu'il y a souvent en rouge au-dessus des articles, notamment, ou du moins sur le web, on passe de polémique à urbanisme.
Bien sûr.
C'est intéressant quand même.
Ah oui, non, c'est...
C'est-à-dire
oui.
que du moment où le politique, le responsable politique récupère le dossier, ah là, c'est plus polémique. Là, c'est urbanisme, c'est sérieux, là. C'est plus des... Oui. Et donc, en fait, l'impression que ça donne, c'est que le citoyen, c'est un guignol, quoi, en fait. Qu'est-ce qui nous embête ? Il y connaît rien. Ils y connaissent rien, qu'ils laissent faire nos bons élus, quoi, en fait. Mmh. Voilà, c'est ça.
Ouais. On avait eu l'occasion, hein, je sais pas si tu m'entends à nouveau, là, ou pas.
Voilà.
On avait eu l'occasion d'en parler beaucoup dans cette émission, hein, Mourad. Merci à toi, Fabien.
Merci beaucoup, Fabien.
Et à très, très, très bientôt.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Eh bien, Lionel Duplessis, on revient donc à cette polémique, on en parlait là, la polémique, mais il n'y a pas eu d'urbanisme pour vous, parce que le maire d'Orléans s'est agacé, je disais, hein, sur votre point de vue. Rappelez-le en très peu de temps, là, c'était la Loire, vous la pompez, vous la mettez dans...
Nous, on regrette hein, qu'un festival qui est censé valoriser le patrimoine naturel de la ville d'Orléans, de la métropole et du Loiret, qui est notamment la Loire, finalement soit obligé, pour faire circuler des bateaux, obligé de pomper dans la Loire à chaque édition maintenant. Mais et oui, ça fait c'est plusieurs éditions.
Quoi, deux, trois,
c'est, même, la, ouais. C'est la troisième qui doivent pomper de manière importante. Alors le maire prétend que c'est depuis le début. Il y a eu une question d'amplitude, il y avait des petits réassorts, mais là un pompage d'un mois pour remplir le canal, c'est que depuis deux ans, depuis qu'on connaît des sécheresses dures, hein, d'ailleurs, qui vont malheureusement, qui n'ont pas vocation à s'arrêter. Donc nous, ça fait deux éditions qu'on met le sujet de déplacer la date, de retravailler ce festival pour renouer avec sa philosophie originelle, notamment, qui était celle de valoriser la marine voilà. fluviale.
Et mettre ça au moment où il y a de l'eau dans la Loire.
Et qui soit compatible avec les rythmes de la Loire. Je pense que ce festival, c'est le festival de Loire. Or, aujourd'hui, la Loire apparaît comme une variable d'ajustement dans ce festival. C'est ce qu'on regrette philosophiquement, en fait.
Il a essayé de répondre, il n'y a pas eu de questions. Je n'y étais pas à cette conférence de presse pour présenter le festival de Loire, où il a quand même dit qu'il ne pouvait pas changer de date parce que, vous comprenez, au moment que vous demandez, il peut y avoir la fête de Jeanne d'Arc. On ne peut pas, juste après la fête de Jeanne d'Arc, honnêtement, mettre la fête, le festival de Loire. Donc il disait devant les journalistes qu'il n'y avait pas d'autres dates possibles. Vous en dites quoi ?
moi, j'aimerais qu'on ait réellement le débat. C'est d'ailleurs, il citait le fait qu'en conseil municipal, lorsqu'on a réappuyé ce sujet, il y avait eu un débat sur la question de la date, l'opportunité, les intérêts. Donc là, il nous a présenté ce qu'étaient les intérêts pour lui. Mais ce débat, il n'a jamais eu lieu. Alors, il a peut-être eu lieu en petit cercle à la mairie, mais en tout cas, il n'a pas eu lieu. On a débattu sur la nécessité du débat. Ouais. Ça a été convenu. Et a priori, un an après, Monsieur le maire considère qu'il y a eu débat. Non, il y a eu ouverture d'un débat, mais il n'a jamais eu lieu, ce débat, malheureusement. Moi, je suis prêt à entendre les arguments. On est prêt à entendre tous les arguments. Ça reste un beau festival, un moment important pour la ville. On a tous un attachement à la Loire. Il y a des festivités qui sont belles. L'idée, c'est pas de tout arrêter. C'est de faire autrement, de prendre conscience de l'urgence. Il y a un an, il se promenait au milieu de la Loire sur un petit chaloupe en nous expliquant quand est-ce qu'on arrête les conneries. Mais moi, je le rejoins. Quand est-ce qu'on arrête réellement les conneries?
Vous voulez que je vous dise, Emmanuel Duplessis, il n'a pas très envie de discuter avec vous. Non, écoutez la partie où, justement, la polémique, hein, je vous disais tout à l'heure, vous étiez dans le journal de France Télévisions et Serge Grouard, lors de la conférence de presse, a dit ceci. Alors,
je voudrais mettre fin à un début de polémique imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il y a des gens qui n'existent parce qu'ils essayent de créer de la polémique et qui en plus n'ont aucune compétence sur le sujet. Le pompage de la Loire sur le canal, d'abord, ça fait au moins depuis 2011 qu'on le fait. Avec, vous doutez bien qu'on ne décide pas comme ça un beau matin, donc tout ça est vu avec les autorités de l'État et validé. Est parfaitement validé. Et ensuite, je vais juste vous donner un chiffre pour vous montrer la bêtise du sujet, c'est que ça représente exactement 0,005% de la Loire à un instant donné. C'est-à-dire que ce pompage est pratiquement nul au regard du débit de la Loire. Et qui plus est, le pompage, à l'issue, il reviendra dans la Loire, c'est-à-dire qu'on ne perd pas une goutte. Voilà, donc j'espère qu'on clôt le débat, parce que je pense qu'à l'infini, faire parler des gens qui n'y connaissent rien sous prétexte de faire parler d'eux, je pense qu'il y a des moments, il y a des limites à ce genre, encore une fois, d'imbécilité. Voilà, si vous me permettez le mot, qui je crois qualifie bien le constat que j'ai fait.
Oh, cette violence, monsieur le maire. Mourad.
Oui, alors ce qui est drôle, c'est d'abord, c'est du Grouard pur jus. Hein. C'est la imbécile, idiot, enfin voilà, on dirait une autobiographie. vous noterez juste, c'est ce que je voulais souligner, c'est que c'est exactement, à la virgule près, les mêmes termes employés par le confrère en deux mots de PQR Mon Amour qui m'insultait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes termes et les mêmes surréactions traitées d'imbécile ou d'idiot, parce qu'en fait, il traite clairement Emmanuel Duplessis d'imbécile, hein, parce qu'on n'a pas d'autres arguments. Et ça rejoint aussi, et je termine là-dessus, ça rejoint aussi l'histoire de la laisse de mer, donc des fameuses algues. C'est-à-dire que c'est des élus qui sont d'une incompétence qui force l'admiration sur ces questions environnementales et écologiques et qui ne réalisent pas que à partir du moment où on va pomper l'eau dans la Loire, on va toucher à la biodiversité, mais de manière factuelle. Et que entre le moment où on va pomper, enfin entre l'avant-pompage et l'après-pompage, il va y avoir une incidence, enfin forcément, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, oui. ça forcément une incidence, même si c'est 0,05. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce chiffre-là, voilà. Peut-être un ami imaginaire qui lui a transmis, mais c'est un déni total et c'est une arrogance que je trouve regrettable par rapport à l'opposition qui s'en prend comme ça toute l'année dans les dents, notamment je pense à Dominique Tripet qui avait été copieusement insulté et par Florent Montillo et par Serge Grouard.
Emmanuel Duplessis, est-ce que vous avez essayé de joindre les services de la préfecture, les services d'État, puisque le maire en parle? Je fais ça sous l'autorité de l'État. Est-ce que vous avez contacté la préfecture?
Non, j'ai essayé de trouver l'arrêté. Il n'est pas encore en ligne, malheureusement, mais je ne doute pas qu'il le sera bientôt.
Oh, d'accord. Donc, il n'y a rien écrit par l'État, en tout cas, sur ce pompage, une autorisation quelconque de ce pompage vous ne l'avez pas trouvé, en tout cas, vous?
Je ne crois pas. En tout cas, il y a plusieurs médias et la mairie qui affirment qu'il a été attribué. Il n'y a pas de raison de penser qu'il ne l'a pas été. Enfin, j'espère pas que le maire préjuge de décision préfectorale. Après, sur le fond du sujet, qui rejoint quand même, en plus, un peu l'objet de l'émission, mais ce qui m'a un peu surpris dans cette conférence de presse, c'est qu'en face, pardon que je m'éloigne du micro, c'est qu'en face, quand, au moment où il tient ses propos et qu'il critique en fait le sujet même hein, de la question, c'est-à-dire ce pompage de Loire, il y a des médias en face de lui qui ont traité
ce
sujet. Donc finalement, il remet en cause directement leur ligne éditoriale, leur choix de traiter des sujets au nom, et il n'y a personne qui moufte. Alors, que personne prenne la défense personnelle, ça, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème.
Mais la première question que j'aurais posée...
sa ligne éditoriale, ça m'étonne.
Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il est où le fond? Et si j'avais été à la conférence de presse, croyez-moi, j'aurais posé la question. Oui, mais vous... Sur la forme, très bien, voilà. Mais sur le fond, il y a crainte ou pas sur le fait que vous pompez l'eau, vous le remettez, qu'il n'y a pas de... Qui vous a dit ça? Et effectivement, aucun confrère qui était présent ne l'a fait, encore une fois... Dommage. On va parler maintenant du convoi de l'eau. Ils étaient nombreux, ils étaient à Orléans, hein, vraiment nombreux. Vous avez Daniel et...
Steven.
Et Steven. Et Steven. Et vous avez couvert donc leur passage à Orléans. Vous y étiez, vous, et Emmanuel Duplessis, vous les avez accueillis ou pas?
J'ai pas eu l'occasion d'y passer, malheureusement. Ouais. Ils ont eu un jour d'avance.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, des obligations professionnelles le jeudi soir.
Le programme a changé au bout de quelques heures. On savait qu'ils venaient, qu'ils s'arrêtaient à bout pour une soirée festive et que le lendemain, ils étaient reçus à l'agence de l'eau. Et finalement, ils sont arrivés directement à l'agence de l'eau, hein, Daniel.
Voilà. Alors, moi, je m'étais mis en lien avec Bruno Coeur, hein, l'élu local de Debout, qui était d'ailleurs tout à fait disposé à nous accueillir pour que nous installions notre studio mobile et que nous faisions notre métier de radio citoyenne, d'animateur de radio citoyenne, puisque c'est ce qui est écrit sur mon contrat, j'anime voilà, une radio citoyenne. Et il m'appelle dans la journée, oui, non, donc il y avait de violents orages, pour me dire que finalement, le convoi avait changé de route et s'installait le jour même, et non pas le lendemain, avenue Buffon à Orléans-la-Source, devant l'agence régionale de l'eau, devant laquelle, en fait, il souhaitait dénoncer donc, ce scandale écologique qui concerne les méga-bassines. Alors, vous allez voir que ça va recouper le début de notre conversation, puisqu'il est encore question de l'eau, et que donc celles et ceux qui se font appeler le peuple de l'eau réclamaient justement un moratoire sur la construction de ces méga-bassines qui, alors je l'explique rapidement aux auditeurs auditrices, vont pomper pendant la période hivernale de l'eau dans les nappes phréatiques pour alimenter de grands bassins dont seuls les agriculteurs autorisés pourront utiliser pour le maïs, par exemple, hein, donc ça fait partie de presque 90%, je crois, des ressources en eau. J'ai trop peur des bêtises, il faudrait écouter des bêtises que je dis. En tout cas, c'est une grande... c'est très aquafage. Enfin, ça demande beaucoup d'eau, la culture du maïs, qui sert ensuite, après aussi, également à nourrir les bêtes, la viande. Et donc, enfin, bref... Il y a beaucoup de choses derrière, c'est très complexe. Donc on a débarqué là-bas avec Steven tout d'abord à bout sur la base arrière, et puis après donc on est allé à Orléans-la-Source. Et sur cette base arrière, il y avait, ça va intéresser Mourad, il y avait justement les nouveaux crieurs, un kiosque indépendant qui vend, enfin oui, essaye, enfin plutôt on donne ce qu'on peut, des médias indépendants, accessibles justement dans son kiosque temporaire, éphémère et révolutionnaire.
Il y a des gens qui sont dans le combat quand même.
Alors oui, et notamment, donc il y avait des soutiens locaux également à bout. Pour revenir sur cette question de l'eau, le problème que posent justement toutes les personnes, les militants du convoi, c'est la gestion de ce bien commun qui échappe aux citoyens. Parce qu'on est, enfin, puisqu'il y a des enfants qui nous écoutent, hein, peut-être, l'eau tombe du ciel. L'eau tombe du ciel, suivant un cycle justement d'évaporation, de condensation, et puis elle retombe, voilà. Et puis certaines personnes se l'accaparent et en accaparent même donc sa gestion. C'est le cas, par exemple, on peut le voir à Orléans. C'est le cas aussi, on peut voir avec la déviation du nouveau pont de Jargeau, qui va avoir des incidences sur la faune et la flore locale. Voilà, des personnes décident. Puis, de toute façon, scientifiquement, il n'y aura pas d'incidence sur la biodiversité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi Mourad, hein, en se disant. C'est-à-dire que, d'une part, on a un bien commun qui est celui de l'eau dont la gestion nous échappe, et par ailleurs on a des faits, donc c'est le travail du journaliste Mourad, ah ben tiens, qu'est-ce qui se passe là, il y a des algues qui disparaissent qui sont le bien commun aussi, ces faits ils appartiennent, ben non, parce qu'en fait ben c'est ce que s'est demandé Mourad, à qui appartiennent les algues, à qui appartient la décision d'enlever ces algues, et puis donc quand un citoyen justement s'interroge sur ces questions environnementales, eh ben il se trouve justement face à ce mur de médias masse, hein, parce qu'il faut savoir que la République du Centre dont vous parliez tout à l'heure, Ouest-France, etc., on peut, oui, comme tu disais d'ailleurs, on peut les contacter pour faire des publi-reportages, établir des partenariats, comme j'imagine d'ailleurs qu'il doit y en avoir un en cours pour les fêtes de Loire. Hein. On établit un partenariat qui va permettre de mettre en avant non seulement l'événement local, et puis aussi donc, bah, le commerce local, ça va vendre de la frite, hein, je vous le garantis. Enfin, voilà toutes ces questions qui nous échappent, alors d'une part environnementale et d'autre part de l'information. Alors nous, ce qu'on a fait avec Steven, eh ben, on s'y immergeait dans le convoi et on a passé beaucoup d'heures. Absolument. On a recueilli beaucoup de paroles, donc celle d'un kiosque indépendant, celle de Julien Leguet qui était le porte-parole de Méga Bassine, enfin Bassine Non Merci. Ouais. Il y avait beaucoup d'associations, il y avait Au Secours d'Orléans, etc. Enfin, beaucoup de citoyens, citoyennes qui, au-delà de la question de la gestion de l'eau, se posent beaucoup de questions sur ce que nous, on a décidé avec Steven d'appeler la guerre de l'eau. Je me suis dit, on va carrément parler de guerre de l'eau, parce que pendant longtemps, on avait parlé de réchauffement climatique qui arrivera alors qu'on est en plein dedans. Et je pense que pour la guerre de l'eau, si on pense au 101e département français, je pense à Mayotte, hein, qui est privé d'eau un jour sur deux jours sur trois, c'est tous les 48 heures, enfin ils ont un accès très limité à l'eau. Je pense que oui, on est en train de vivre une guerre de l'eau dans la mesure où ces militants pacifistes, hein, donc je le rappelle, du convoi de l'eau, se sont rendus à l'agence régionale de l'eau parce que en fait il avait été donné pour consigne aux salariés de prendre leur RTT de télétravailler le vendredi, le jour où justement ils devaient se présenter. Ouais. Et donc il y a une guerre de l'eau, enfin si je devais le prouver, c'est que oui, effectivement, l'État réprime tous ces citoyens, citoyennes qui demandent à ce qu'il y ait une plus juste équité dans sa répartition et notamment dans sa gestion, que s'est accaparé le syndicat majoritaire qui est au gouvernement depuis des années, à savoir la FNSEA. Tout ça s'est retrouvé sur la Rédac Pop, c'est passionnant, absolument. Et ça donne de l'énergie parce qu'il y a des gens comme vous et moi, enfin voilà, qui veulent comprendre, j'allais dire, non seulement les sources de l'information et puis aussi la gestion de ces sources. C'est une grave faute là qui s'est passée là, par exemple, ce dont tu nous parlais, Mourad, de ne pas avoir été justement, puisque c'est le travail de journaliste, hein, d'aller voir toutes les sources par rapport à une information, notamment celle des algues, et les citoyens, citoyennes ont le droit de s'interroger. Je me permets, Ali Hassan, parce que je parle beaucoup, non seulement d'inviter les auditeurs, auditrices, à aller sur le site de la Rédac Pop pour écouter ces 3 fois 30 minutes de reportage qui recueille dans tout type de témoignages, et puis de conclure pour faire la liaison peut-être avec le prochain papier de Steven, avec cette dernière phrase du livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, oh mon corps, fais toujours de moi un homme qui interroge. Mais c'est ce que je pousse les enfants et les jeunes à faire. Mais posez-vous des questions, vous avez bien raison.
Quel poète.
Quel poète, ce Daniel. C'est Frantz Fanon, c'est pas moi. Ouais,
oui, mais vous avez rencontré, donc, je disais.
Julien Leguet.
Julien Leguet. Bassine, Non Merci, je crois.
Mmh. Voilà.
Et vous avez expliqué, il y a d'autres, il y a vraiment, c'est passionnant, il y a d'autres interviews. Notamment, en regardant les photos, j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes.
Oui, c'est vrai ou pas ? Oui, ouais. Énormément.
Énormément de femmes. Mais par contre, beaucoup moins, et ça va être le sujet de ton papier, Steven. Et on le regrette souvent ici, dans cette émission, quand il y a ce genre d'événement, on voit très peu des jeunes gens, notamment, pour moi c'est important, des jeunes gens des quartiers.
Des quartiers. Des quartiers et racisés aussi.
Et voilà, et ça, ça sera ton papier. Bon, on écoute d'abord Julien Leguet de Bassine Non Merci.
Regroupé tout du long entre 600 et 800 cyclistes et entre 15 et 30 tracteurs, qui est parti de Sainte-Soline, où se construit encore actuellement une méga bassine et où on résiste bec et ongle doit nous conduire jusqu'à Paris. Et l'intention était bien d'aller au-devant des institutions pour dire notre ferme opposition à toute continuation de ces projets de bassine. On vient réclamer un moratoire. Concrètement, on vient ici à l'Agence de l'eau parce que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est l'organisme public qui paye 50% des bassines. Et pour nous, c'est un véritable scandale. L'Agence de l'eau, son objectif, c'est la protection des milieux aquatiques, c'est la protection de l'eau en quantité, en qualité, et certainement pas la privatisation et l'accaparement. Et certainement pas de l'argent public payé par nos factures d'eau pour asseoir pour le long terme l'agro-industrie, l'agriculture avec pesticides et nitrates qui rétroactivement font que l'Agence de l'eau doit dépenser des sous pour des stations d'épuration, pour faire des usines de potabilisation, etc. Et donc on était déjà venu ici en début d'année. On avait été reçu par une délégation comprenant la préfète coordinatrice de bassin, Madame Engström. C'est elle la chef de l'agence de l'eau. Donc c'est l'État en fait, le chef de l'agence de l'eau, et qui a toutes les décisions finales. Et on était déjà venu présenter nos arguments, qui déjà à l'époque auraient dû suffire à ce qu'il y ait une suspension de tous travaux, parce que ces projets ils sont extrêmement fragiles sur le plan juridique. Sur le plan démocratique, c'est une catastrophe. Sur le plan scientifique, c'est devenu complètement inacceptable. Et malgré tout, on a encore tout un tas de collectivités, porteuses de projets et de collectifs d'irrigants qui montent des dossiers comme ça, et des agences de l'eau qui n'ont toujours pas coupé le robinet. Sachant qu'en face de ça, il y a plein de rapports aujourd'hui qui nous donnent complètement raison. Par exemple, il y a le Conseil économique et social au niveau national qui dit dans un rapport, mot pour mot, qu'aujourd'hui on ne devrait plus donner une seule subvention publique pour remplir par pompage des stockages d'eau. C'est très clair, mais c'est qu'un organe consultatif. C'est bien malheureux, hein. On crée des organes consultatifs pour avoir des lois d'orientation qui aillent dans le sens de l'intérêt général et on ne les écoute pas. Il y a également la Cour des comptes au niveau national qui a vraiment mis un grand coup de pied dans la fourmilière au niveau de la gestion de l'eau en général et en particulier sur les bassines qui sont près de chez nous sur la Vendée, où il s'avère que ça coûte très très cher. C'est toujours vendu comme une solution qui viserait à économiser l'eau en été parce qu'on la pomperait en hiver. C'est pas le résultat que ça donne. Le résultat que ça donne, c'est qu'on a des rivières qui sont à sec plus tôt au printemps parce qu'on les a pompées plus tôt, parce qu'on a tapé dans la nappe phréatique. C'est certainement pas un outil de transition agricole, c'est tout le contraire. Et s'il y a des escrocs aujourd'hui qui disent que le soutien de la bio est conditionné par les bassines, clairement on aura affaire à des tartuffes. Et donc j'invite les auditeurs à se méfier fortement de ces gens qui d'un côté prônent la bio, mais en réalité la bio industrielle, et en même temps n'ont aucun problème avec le fait de s'accaparer de l'eau rien que pour eux, au détriment de tout le reste, quoi.
Voilà, c'est assez essentiel, ce que dit Julien Leguet. À écouter donc sur la page de la Rédac Pop et
alors,
de Radio
oui,
Campus.
Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vais faire vite. Et on a quand même rencontré beaucoup de personnes traumatisées, qui ont connu justement les assauts des forces de l'ordre pour les mater, simplement. Alors,
bien sûr.
Non seulement, d'un point de vue physique, c'est-à-dire des violences physiques et de graves violences psychologiques aussi qui vont bien au-delà des atteintes qui sont déjà faites aux vivants, des atteintes qui sont également faites sur les consciences humaines.
C'est peut-être cette crainte, Steven, qui fait que les personnes racisées, comme tu dis, ne viennent pas. Mais
J'ai une autre explication, moi, que je vais développer.
Ah ben, tu développes maintenant. Vas-y.
Ok. Bon, justement, dans ce contexte de réfléchir sur ce qu'est l'écologie et sur l'absence des personnes racisées, je me suis posé une question. Et donc voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la guerre de l'eau, etc. Bon, il y a le podcast sur la Rédac Pop pour ça. Non, je voulais faire un état d'un constat qui, en tant que personne racisée, m'a pas mal troublé. On a eu 700 personnes dans ce qu'on voit, et pas ou très peu de personnes non blanches. Alors vous allez me dire, oui, je vois pas les couleurs, on se bat tous pour la même chose, gna gna gna. Alors celui qui a eu cette réflexion, il s'en va. Hein. Non mais frérot, c'est quoi le problème? T'es daltonien? Il faut encore le dire, il y a des différences selon la couleur de ta peau. Les personnes racisées doivent constamment composer avec cela. Donc soit tu sors, soit tu te tais. Les luttes écolo sont devenues mainstream. Et depuis, on y associe souvent la nourriture bio, le véganisme, le végétarisme, l'antispécisme ou l'écoféminisme. Des mouvements auxquels sont souvent rattachées les personnes blanches et bourgeoises. Comme si l'écologie ne concernait pas les personnes racisées. Cette récupération fait écho à des clichés racistes qui matérialisent la ligne raciale qui traverse ces sujets. Typiquement, un des exemples qu'on entend souvent, c'est les pays du Sud seraient en retard sur la préservation de l'environnement. Ou alors les cuisines non occidentales seraient très carnées, etc., etc. Les mouvements écologistes ont créé une ligne raciale basée sur des clichés. Lorsque j'ai interrogé l'un des leaders du collectif Bassine Non Merci, il m'a expliqué que l'absence des quartiers était principalement due au fait que la cause est éminemment rurale et que les quartiers pourraient, à minima, les rejoindre sur le plan des violences d'État et plus spécifiquement des violences policières. Bon, il y a deux choses dans cette réponse qui ne me vont pas. Premièrement, et je n'ai pas besoin de le développer, l'environnement touche tout le monde. Le monde rural comme urbain, les pays du Sud comme l'Occident. Donc leur absence n'est pas due au fait que cette cause soit rurale, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Ensuite, ce discours est celui d'une personne non racisée, à savoir blanche. Et lorsqu'une personne blanche parle de violence d'État ou de colonisation, c'est le seul moment où les personnes racisées sont invitées à prendre la parole. C'est le moment où les personnes racisées sont représentées de la manière la plus violente, animalisée, méprisante et brutale qu'on les invite. Prenons l'antispécisme. Alors, l'antispécisme, c'est quoi ? C'est être contre la domination de l'espèce humaine sur les autres. Les antispécistes ne se prononcent jamais sur la mémoire de l'esclavage, mais vont instrumentaliser cette mémoire sans intégrer la parole des afro-descendants. Ils associent la souffrance animale d'aujourd'hui à la souffrance causée par l'esclavage, association faite par des personnes qui ne sont pas concernées par l'esclavage. Les personnes qui font ça peuvent se permettre d'avoir le choix dans la ribambelle des références historiques. Parce que oui, le blanc a le choix de s'engager dans une lutte, contrairement aux personnes racisées. Quand tu n'es pauvre et racisé, ta vie est politique, tu vis l'antiracisme. Après, tu peux choisir de produire, mais c'est une lutte qui réside dans chacune des personnes racisées. Les réflexions écologistes blanches choisissent les noirs comme un trigger, hein, une sorte de choc mental. La question du choix crée de la distanciation, une objectification des personnes racisées qui sont choisies comme exemple. Et à ce moment-là, il n'y a plus de dialogue. Chaque fois qu'il est fait question de l'Afrique, c'est pour exprimer un manque, un retard ou un échec, ce qui invisibilise des discours qui ne se disent pas écologistes, mais qui dans les faits le sont. On retrouve la même chose avec le féminisme, où des personnes refusent l'appellation occidentale du féminisme. Lorsque ces pratiques sont reprises en Occident, elles vont être valorisées, avoir un sens politique, parce que tout d'un coup, elles sont portées par des personnes blanches qui mettent des mots scientifiques et des définitions dessus, qui par là même silencient complètement ce qui se fait. Une invisibilisation, car on ne fait pas coïncider ensemble des notions écologiques avec le quotidien des personnes racisées. Ces termes sont intéressants à manier malgré tout. Mais il ne recouvre pas tout. Il est urgent d'arrêter de militer avec l'écologiste blanc ou qu'il déconstruise sa vision de l'écologie. Il reste qu'il faut créer des espaces entre personnes racisées sur ces thématiques et adopter nos propres définitions. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on fait du communautarisme. Concrètement, ces réunions, on sera quoi ? 4 ou 5 hein ? On parlera d'auteurs et d'autrices inconnus du grand public. Puis on philosophera pendant des heures.
Et on fera du rap à la fin.
C'est ça. Ces gens qui vont venir nous le reprocher, si tu leur avais envoyé une invitation, ils t'auraient répondu une heure avant le début. Désolé, je me sens pas très bien. Je pense que je vais rester chez moi. Mais on se tient au courant. Bise. Résultat, tu les vois plus pendant des mois. Le sujet de l'animalisation pour les personnes racisées est bien plus large que pour les véganes blancs. Le rapport entre le noir et l'animal a une histoire coloniale que les blancs ignorent. On a des choses à dire sur l'historicité de l'animalisation, sur la place de l'espèce humaine et les liens politiques et révolutionnaires. Pour être clair, la frontière entre l'animalité a évolué au cours de l'histoire et à un moment donné, la frontière a été placée au niveau de la blanchité. Aujourd'hui, le blanc, aussi gentil soit-il, garde envers les personnes racisées un discours animalisant, un discours colonisateur. L'exotisme, le sauvage, l'indomptable, là-bas. Des termes qui ont pour but d'exterminer toutes ces brutes. Un discours de revalorisation quand ça leur sert et de punition quand ça les dessert. Mais ne vous trompez pas, je ne dis pas que l'ennemi c'est le blanc écologiste, au contraire, c'est une invitation. J'invite ces blancs à questionner leur vocabulaire. J'invite les personnes racisées aussi à créer leur propre vocabulaire ou à redéfinir les termes. J'invite tout le monde à déconstruire ce monde pour un autre monde mieux défini. Merci de m'avoir écouté.
Bon, beau papier.
Bravo.
Vraiment, très bien. Très beau papier. Refais-nous ça et reviens dans cette émission régulièrement.
Alors moi, je suis absolument favorable à ce que ce talent se joigne à notre équipe, effectivement, d'une part, bravo. Et puis, j'invite vraiment Rachel Kahn à ne pas écouter cette chronique.
Absolument. Une réaction ?
Non, c'est intéressant. Moi, je suis très pour qu'on parle de ces choses-là. La question des discriminations, qu'elles soient sur les questions raciales ou sexuelles ou religieuses, etc., structure encore beaucoup trop nos sociétés. Mais même plus largement, on le voit bien avec la question du cyberharcèlement, enfin du harcèlement à l'école, par exemple. On voit bien que la question d'être dans la norme ou pas est encore quelque chose de très important dans nos sociétés pour vivre sereinement. Et la question d'ouvrir ces normes, de légitimité, que chacun soit légitime dans ce pays et n'en doute jamais. Je pense que c'est un sujet important de cohésion nationale et je suis toujours curieux d'entendre des analyses qui font comprendre comment on en vient à pouvoir développer des visions du monde ou des actes discriminatoires sans parfois même s'en rendre compte ou croire qu'on le fait avec des bons sentiments. Et je peux en croire que quand on en est directement victime, ça peut parfois... Certaines postures peuvent agacer tant le discours semble déconnecté de la vie de certains de nos concitoyens.
Il vous arrive d'aller parler, par exemple, d'écologie, de la défense de l'environnement dans des quartiers, je veux dire d'Orléans, en tant qu'élu ?
Et quel est le retour? J'ai fait une campagne législative
évidemment, ça, dans les quartiers nord et ouest d'Orléans. J'étais candidat écologiste, donc évidemment la question de l'écologie est structurante. Et c'est vrai que la question dans les quartiers populaires, c'est le sentiment qui ressort, c'est qu'on veut encore leur faire payer une facture sur laquelle elles ne sont pas. Et c'est bien le sujet qu'on doit réussir au niveau de l'écologie politique, c'est montrer en effet qu'elle n'est pas punitive, en tout cas pas sur les classes populaires, mais qu'au contraire, elle permet de mieux vivre. Combien d'immeubles dans Orléans et dans les villes périphériques, j'ai pu voir, mais qui étaient très 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 mal isolés. Enfin, je pense que l'été a été un enfer pour eux et que ça va continuer. Donc on voit bien que la question de l'isolation des logements, de la réduction de la dépense énergétique, des déplacements doux, enfin il y a beaucoup 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 de voitures par exemple dans les quartiers populaires. Alors évidemment, pour nombreux d'entre nous, la voiture c'est gage d'autonomie, de capacité de mouvement, etc. Mais je pense que vivre en permanence au milieu des voitures, ça doit pas être agréable non plus pour tout le monde. Donc voilà, je crois que quel que soit son niveau social et où on vit dans les villes, on a tous intérêt à vivre dans un monde plus calme, moins bruyant, moins polluant. Et c'est à ça qu'on doit démontrer et qu'on doit proposer comment on le fait dans la justice, que ce ne soit pas toujours au même auquel on demande des comptes et de payer la facture. Et ce que je veux insister, hein, vraiment, parce que je pense que c'est toute la société qui doit le comprendre, si on ne prend pas en charge collectivement le coût de la transition écologique, ça sera à chacun dans son coin de payer la facture. Je pense qu'elle sera plus chère, par ailleurs, le fait qu'on doive chacun la payer dans son coin, la facture. Et en plus, tout le monde n'aura pas la moyen de la payer, de s'adapter des coûts individuels que ça causera. Là, on le voit bien, les gens s'équipent de climatisation. Bah, si tu as les moyens, tu prends en charge ton propre isolement du réchauffement. Si tu n'as pas les moyens, tu te débrouilles. Or, on pourrait faire le choix de le faire collectivement, comme on le fait avec la santé, avec l'éducation, etc. Et ça, vraiment, je pense que les populations doivent le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas en charge collectivement, elles devront le faire elles-mêmes. Le réchauffement climatique est là, il ne nous attendra pas. Les climato-optiques, il y en a encore quelques-uns. Ils ne sont plus très nombreux, parce que le réel, au bout d'un moment, il s'impose. Hein. Et il arrive, le réel, et il va faire mal si on ne se prépare pas et si on ne s'organise pas. Et toujours au même, malheureusement.
Mourad et puis Victor.
Oui, alors après avoir précisé que c'est quand même ce qui donne chaud, c'est quand même la baïa. Hein. C'est le principal, la principale cause du réchauffement climatique. Je voulais juste... Il y a Paul, mon fils de 11 ans, qui vient de rentrer, et qui vient d'avoir 11 ans, hier, qui... je voudrais juste lui demander qu'il rappelle la phrase de son instituteur, Eric, à propos de l'avenir de vos enfants. Qu'est-ce qu'il avait dit ?
Il avait dit « Vos enfants vivront en enfer ».
Ah oui.
Alors, c'est un peu sec, mais il ne faut pas non plus oublier. C'est un peu tranchant. Il avait un petit peu regretté, mais en même temps, c'est réel. C'est réel.
En même temps, maintenant, Paul, t'es prévenu. Hein.
Mais voilà, on discourt aussi et on agit aussi pour cette génération-là qui va arriver et qui commence déjà à vivre un enfer.
Victor ?
Oui, moi je voulais revenir sur le texte de Steven que j'ai trouvé vraiment très très bien. Et effectivement, je trouve que c'est dommageable que les milieux écologistes n'arrivent pas à drainer des volontés et des mobilisations dans les quartiers populaires, parce que c'est les quartiers populaires qui sont le plus touchés par les problèmes de santé écologique. En fait, c'est les zones périurbaines pauvres qui en fait subissent le plus le truc. Ils sont à la fois à la campagne et en ville, donc ils ont le pire des deux. Enfin, ils bouffent des pesticides et en même temps ils ont de la bagnole, enfin c'est vraiment assez horrible. Et c'est vrai que il y a sans doute un travail à faire de ce côté-là, du côté des mouvements écologistes, pour pouvoir inclure plus de personnes non blanches, parce que c'est un combat qui concerne tout le monde, et je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre de ces personnes-là aussi.
Merci à vous tous d'être passés dans À bâtons rompus, la première de la saison 2023-2024. Sur Radio Campus Orléans, juste derrière nous, il y a Raidon, ils sont déjà prêts. Ils vont démarrer. Et puis à Tours, alors comme je n'ai pas le programme devant, je sais qu'à 21h il y a du jazz, mais juste là, je ne sais pas trop. On va terminer en musique avec Sinéad O'Connor.
Ah, très bien.
Merci infiniment. Magnifique. Merci infiniment, Hassan.
Cette jeune fille qu'on aime beaucoup, vous l'avez entendu beaucoup ici, pour son côté punk, son côté vrai, est décédée à la fin du mois d'août. Nous n'étions pas à l'antenne, donc pas pu rendre.
Non, c'était en juillet, ouais,
C'était en juillet plutôt, ouais.
Et puisqu'il y a Raidon après, elle a fait un très bon album reggae. Hein.
Et bien, on va
ouais, mais je voulais pas faire de polémique. Hein, désolé.
Eh bien, on va terminer avec ça. Cet album qu'elle a enregistré en 2005 à Kingston, à la Jamaïque, avec un album de reprise, hein, de morceaux roots, excellent, reggae, avec plein de musiciens. Et ce morceau s'appelle Down Pressure Man.
C'est sur justement les oppresseurs. J'adore. Revenez la semaine prochaine. Les amis du monde diplomatique seront avec nous. Et puis, dans 15 jours, nous parlerons de GIEC avec
Gonéry,
le Côte-Dané. Raïdon juste derrière sur Campus Orléans. Passez une belle soirée. Ciao.
Merci. The sea.